Vous êtes sur RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce lundi 16 août, la tragédie afghane au cœur de l'actualité. Depuis quelques heures, les talibans ont repris entièrement le contrôle du pays. De nombreux civils tentent de fuir. C'est une immense panique sur place. Dès le début de ce journal, nous rejoindrons en direct Victoria Fontan, la vice-présidente de l'université américaine de Kaboul. Elle attend d'être évacuée. Comme de nombreux autres ressortissants, la France organise en ce moment même des rapatriements via les Émirats Arabes Unis. Mobilisation également pour un autre pays, Haïti, touché par un nouveau séisme avant-hier. Le bilan n'est que provisoire. Il est désormais de 1300 morts. Dans ce journal, depuis ce matin, nouvelles règles pour accéder à certains centres commerciaux, ceux de plus de 20 000 mètres carrés. Là aussi, ça y est, passe sanitaire exigé. Recherche serveur et cuisinier désespérément. L'offre d'emploi dans la restauration est à son plus haut niveau en ce moment. Les patrons manquent de bras. Nous parlerons aussi de la rentrée scolaire. Très chère rentrée scolaire pour les étudiants. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Alors à part quelques chanceux, c'est à nouveau mitigé pour la plupart d'entre nous.
Exactement, une petite perturbation glisse sur la France et donc on va la retrouver à la mi-journée de la Nouvelle-Aquitaine vers les frontières du Benelux, en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté, la région centre et l'Auvergne. Donc moralité, un temps tout gris avec très localement quelques petites averses, mais rien de bien méchant. À l'avant comme à l'arrière par contre, c'est une alternance de nuages mais aussi de très belles éclaircies qui seront assez sympathiques. Plein soleil en Méditerranée, mais avec beaucoup de vent, 90 km/h et une baisse généralisée des températures. La minimale 20 degrés à Brest, à Lille ou à Aurillac et la maximale encore 32 degrés dans le sud-est qui, je rappelle, est encore maintenu en alerte canicule.
La question du jour, la situation en Afghanistan vous inquiète-t-elle? Vous dites oui à 71%, non à 21%. On attend vos appels évidemment au 3210 et vous pourrez réagir sur un sujet beaucoup plus léger, ça fait du bien. L'anniversaire de deux grandes stars françaises, Pierre Richard et Sheila.
RTL Midi.
En Afghanistan, ce sont toujours des scènes de panique depuis que les talibans ont repris le pouvoir hier. À l'aéroport de Kaboul, de nombreux civils tentent de monter dans un avion. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
C'est désormais la seule porte de sortie, l'aéroport, sachant que de nombreux pays s'organisent pour évacuer au plus vite leurs ressortissants.
Absolument, l'aéroport de Kaboul est devenu le centre de toutes les ambitions de départ des populations et des diplomates. Le tarmac a été envahi ce matin par des centaines d'Afghans candidats au départ qui espèrent un improbable vol. Certains courent à côté, voire même s'accrochent aux avions de l'armée américaine alors qu'ils sont en train de rouler sur la piste, réacteur allumé. Des images hallucinantes depuis ce matin. Alors face à cet afflux de population désespérée, les militaires américains qui ont été déployés pour sécuriser l'aéroport ont dû tirer en l'air pour contenir la foule. Dans ce chaos indescriptible, les vols commerciaux ont été suspendus. Pendant ce temps, les rotations aériennes militaires ont débuté pour évacuer notamment les personnels diplomatiques et les ressortissants étrangers qui se trouvent toujours à Kaboul. Une première rotation française aura d'ailleurs lieu dans la journée entre Kaboul et Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis. Et des Émirats Arabes Unis, les Français seront rapatriés vers Paris.
Merci beaucoup, Brice Dugénie. Avec nous, en direct de Kaboul, Victoria Fontan. Victoria Fontan, qu'on essaie de joindre, on a un petit peu quelques problèmes technique pour la joindre. Évidemment, vu la situation sur place, toute la communauté internationale regarde les États-Unis accusés d'abandonner l'Afghanistan aux talibans. Certains comparent même ce retrait précipité à la chute de Saïgon, à la fin de la guerre du Vietnam, Lionel Gendron.
Le photomontage a fait le tour des télévisions et des réseaux sociaux. À gauche, avril 1975, un hélicoptère évacue des ressortissants américains à Saïgon, au Vietnam. À droite, une image quasi identique, le 15 août 2021, à Kaboul, en Afghanistan. C'est loin d'être la même guerre, mais les deux photos véhiculent la même idée de précipitation et de défaite. Cette image, Joe Biden était convaincu qu'elle ne pouvait plus exister en 2021. C'était il y a un peu plus d'un mois.
En aucun cas, vous ne verrez des gens évacués depuis le toit de l'ambassade.
Une mauvaise intuition. Alors hier, son chef de la diplomatie a atténué la portée symbolique de cette évacuation avec une ligne directrice. L'Afghanistan n'est pas un échec.
On ne peut pas comparer avec Saïgon. On est venu en Afghanistan il y a 20 ans avec une mission, s'occuper de ceux qui nous avaient attaqués le 11 septembre. Et on a réussi, on a rendu justice et on s'est assuré qu'ils ne puissent plus nous attaquer depuis l'Afghanistan.
Afghanistan.
Un point qui fait débat, en effet, comment être certain qu'Al-Qaïda ne va pas retrouver en Afghanistan une terre accueillante pour préparer de nouvelles attaques contre les États-Unis.
Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis. Ça y est, avec nous en direct de Kaboul, Victoria Fontan. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes la vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan. Cela fait 2 ans et demi que vous êtes en poste. En ce moment même, vous êtes réfugiée au Guarda World de Kaboul, le service de sécurité nationale en Afghanistan. D'abord, est-ce que vous vous sentez en sécurité ?
Oui, sachant que c'est une compagnie de sécurité privée qui s'en va demain. Une fois qu'ils seront partis, ben, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus grand-chose. Et donc, on sera nous-mêmes et des Népalais, enfin, beaucoup de gens qui seront restés sur le carreau, quelque part, seuls face aux talibans, qui sont juste qui sont juste aux portes, au principal du compound. Voilà. Et qui attendent qu'une seule chose, justement, c'est que Garda World s'en aille pour rentrer, quoi.
De nombreux ressortissants étrangers quittent le pays, on en parlait à l'instant. Est-ce qu'il est prévu que la France vous évacue, vous, dans les prochaines heures ?
L'évacuation des Français, bien sûr, on m'a dit qu'il fallait que je sois au point de ralliement auprès de l'aéroport pour ce soir. Le problème, c'est que j'ai aucun soutien pour y aller. Donc, ça s'est expliqué. Je pense que manifestement, je vais rater le premier vol. Nous attendons en ce moment un hélicoptère du World Food Programme qui est libre en ce moment et qui pourra venir. Bon, ça fait 45 minutes, il ne reste pas encore un quart d'heure et puis si ça n'arrive pas, on sait que ce sera trop tard pour aujourd'hui.
On précise, Victoria Fontan, que vous avez décidé de rester le plus longtemps possible pour aider vos étudiants à être en sécurité. Est-ce que vous y êtes parvenue ?
On y est parvenu. On a les avions, on a les listes d'étudiants. Mais le problème, ça va être d'acheminer ces étudiants vers l'aéroport. Donc, nous sommes en train de travailler à une solution pour négocier avec les talibans directement et avoir leur support pour aller jusqu'à l'aéroport. Ça va être compliqué pour nous, 7. Nous sommes 7 dans mon équipe. Pour nous, 7, ça va aller. En revanche, pour plusieurs centaines d'étudiants, ça s'annonce compliqué.
Cela veut dire que vous pouvez communiquer avec les talibans, leur demander effectivement une aide logistique entre guillemets pour pouvoir exfiltrer vos étudiants ?
Pas une aide logistique, mais plus une escorte pour arriver jusqu'à l'aéroport. Donc, au moins notre équipe, ce sera possible grâce à un chef de guerre local qui essaye de nous aider, dont petit-fils travaille avec moi. Sinon, pour les étudiants, ça va être compliqué et autre chose, mais on ne perd pas espoir.
Victoria Fontan, est-ce que vous vous attendiez, vous qui connaissez très bien le pays, à ce que les talibans reprennent le pouvoir, mais aussi vite, de cette façon-là ? Allô ? Est-ce que vous nous entendez, Victoria Fontan ? Allez-y, on a beaucoup de mal à vous entendre. Votre témoignage est précieux, mais la liaison est très compliquée. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les talibans, je vous demandais, reprennent le pouvoir aussi vite ?
Non, absolument pas. Nous n'avions aucune idée que ça allait se passer aussi vite. La semaine dernière, on préparait le trimestre, on préparait l'année à venir. Et donc on a tous été pris de court, et je pense même les talibans eux-mêmes.
Ouais. Et nous avons beaucoup d'images qui nous parviennent ici. On voit la panique des Afghans qui cherchent à échapper aux talibans, et pas seulement à l'aéroport. On voit également ces embouteillages monstres à Kaboul. C'est toujours le cas ?
Absolument, c'est toujours le cas, parce qu'en plus les gens ont abandonné leur voiture en chemin pour l'aéroport. Donc il y a en plus des tas de voitures qui bloquent les accès. Et donc c'est vraiment... On se croirait dans un film catastrophe avec un volcan en éruption. Enfin, on en est là, quoi. C'est vraiment sauf qui peut pour tout le monde. Et personne ne sait au début du film comment il va terminer à la fin, s'il sera mort ou vivant, quoi, malheureusement.
Ça veut dire quoi concrètement, Victoria Fontan, le retour des talibans ? C'est une croix sur ces 20 dernières années ?
Ah, une croix totale sur ces 20 dernières années, une chape de plomb qui va s'abattre sur le pays. Il ne faut surtout pas croire aux effets d'annonce ni au fait que les talibans ont changé. Ils n'ont pas changé. Là, ils attendent qu'on s'en aille tous pour vraiment commencer la répression. Et malheureusement, ça fait des années que je le dis, que nous sommes en situation de pré-génocide de la minorité hazara. Et malheureusement, je pense qu'on va bientôt voir des scènes terribles dans les mois à venir.
On imagine, comme ça doit être un déchirement pour vous, de quitter l'Afghanistan, un pays que vous aimez évidemment, et les personnes qui doivent rester là-bas.
Absolument, et juste maintenant, l'un des directeurs financiers de l'université vient de m'écrire pour me demander mes détails bancaires, etc. Et je lui dis, mais comment allez-vous, quoi? Et même en ce moment, mon staff me demande comment je vais et s'en fait pour moi, alors que ce sont eux qui sont en première ligne. Et ça résume bien l'Afghanistan. C'était vraiment, c'est un peuple formidable qui ne mérite pas ce qui est en train de lui arriver.
Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage très fort, Victoria Fontan. Je rappelle que vous êtes en direct de Kaboul, que vous êtes la vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan. Bon courage et prenez soin de vous, évidemment. Merci. À part les États-Unis, la communauté internationale a-t-elle un moyen de pression sur les talibans? La France, que peut-elle faire? En ce moment même, Emmanuel Macron préside en Conseil de défense. Il prendra la parole ce soir à 20h. Paris a un rôle à jouer, c'est sûr et certain, c'est ce que pense Bernard-Henri Lévy. Le philosophe était l'invité de Jérôme Florin ce matin sur RTL.
Il y a d'abord des liens historiques entre la France et l'Afghanistan libre. Il y a un lien, je crois, fort entre Ahmad Massoud, désormais incarnation de la résistance, et le président Macron. Et je pense que la France, si elle le souhaite, peut aider beaucoup cette nouvelle résistance afghane à se constituer, à se renforcer et à passer à la contre-offensive. Si on les y encourage, la reconquête, elle sera longue, bien sûr, mais elle peut repartir de là. En tout cas, ce sont les seuls qui peuvent nous protéger aujourd'hui des attentats, de la barbarie, y compris sur notre territoire, dans les grandes villes d'Europe.
Le philosophe Bernard-Henri Lévy, invité ce matin sur notre antenne. RTL, il est midi 42. En Haïti, le bilan du séisme qui a eu lieu avant-hier ne cesse de s'alourdir. On dénombre désormais plus de 1300 morts, 5700 blessés, sachant que de nombreuses personnes sont encore portées disparues dans le sud-ouest du pays. Sur place, évidemment, les recherches continuent, alors qu'en France, des collectes sont organisées, des appels aux dons également. C'est le cas pour le Secours populaire. Écoutez Corinne Makowski, la secrétaire nationale.
Pour l'instant, on a deux points d'action. C'est à la fois l'hôpital Saint-Pierre qui est à Corail. Ben évidemment, les équipes de soins, ils ont des besoins en médicaments, produits sanitaires, en carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes, de la nourriture et de l'eau, bien sûr. On va intervenir auprès des paysans qui sont assez isolés. On a identifié là comme ça 300 familles. Donc là, c'est de l'eau qui est un besoin immédiat, de la nourriture et surtout des tentes pour que les gens soient mis à l'abri. En tout cas, déjà, là, ça représente près de 100 000 euros et on est loin, évidemment, du compte puisque on sait par expérience que quand les gens subissent une telle catastrophe, la solidarité, elle a besoin de s'exercer sur le long terme.
Des propos recueillis par Lucille Besse pour RTL. Si vous souhaitez faire un don, il suffit de se rendre sur le site internet du Secours Populaire.
RTL Midi.
Le nombre d'hospitalisations continue à augmenter en France, que ce soit dans les services de médecine générale ou les services de réanimation. L'enjeu, bien sûr, est d'éviter une saturation des hôpitaux, comme c'est le cas aux Antilles. Ce week-end, plusieurs patients ont été transférés en métropole, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Les contaminations explosent, notamment chez les jeunes de 20 à 29 ans, avec un taux d'incidence qui dépasse désormais les 4000 cas pour 100 000 habitants. Après les bars, les restaurants, les hôpitaux et les transports, nouvelle étape pour le pass sanitaire. On revient en métropole. Depuis ce matin, il est nécessaire d'en être muni pour entrer dans les grands centres commerciaux. Valentin Boisset, vous vous trouvez au Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne. Pour l'instant, d'après ce que vous constatez, Valentin, l'heure est encore au rodage.
Oui, et pourtant, chez certains clients, tout était prêt derrière les caddies.
Pass sanitaire ? Je l'ai sur mon téléphone.
Mais à l'entrée, pas de file d'attente, il y a assez peu de contrôle finalement, selon ce commerçant.
Encore, on passe de rodage, il n'y a aucun contrôle.
Petit à petit, le centre va mettre des agents aux différentes portes. Il va falloir faire scanner son QR code. Mais de nombreuses personnes n'étaient pas au courant ce matin. Une souplesse appréciée donc par cette cliente qui n'a qu'une seule dose de vaccin.
Il y a des gens qui n'ont pas pu se faire vacciner, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est bien de prévoir pour ceux qui n'ont pas été vaccinés.
La mesure est cependant majoritairement appréciée ici.
Vu le contexte actuel, c'est normal qu'il y ait un passe sanitaire pour contrôler un peu tout le monde, parce que sinon, c'est la chienlit.
Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément contents parce que c'est une obligation. Ça ne me gêne pas, enfin si tout le monde pouvait le faire, ça serait très bien, ça prouverait que tout le monde est vacciné.
Une seule personne a fait demi-tour ce matin en se rappelant de la mesure. Elle est simplement allée faire ses courses un peu plus loin, dans un autre magasin.
Le reportage de Valentin Boissé dans le Val-de-Marne pour RTL. En Dordogne, je vous le disais en titre, une adolescente de 13 ans n'a pas hésité un instant à se jeter à l'eau pour sauver un petit garçon de 4 ans. Hier, elle l'a vu tomber dans la rivière de Lille, à Mussidan. Tout le monde s'en sort sain et sauf et la jeune fille fait l'admiration des habitants de son village, Philippe de Maria.
Exactement Agnès, il y a de quoi. Hier dimanche 15 août, tout est calme près du pont de Lagutte à Mussidan quand cette jeune fille voit un petit garçon en difficulté dans l'eau de la rivière. Elle ne va pas hésiter une seule seconde. Écoutez le récit du maire de Mussidan, Stéphane Tricard.
Sur les berges de Mussidan, il y a de chaque côté du pont, si vous voulez, des escaliers qui descendent sur les berges. Et cet enfant de 4 ans avait l'habitude de jouer à ce niveau-là. Et donc il est descendu les marches de l'escalier et puis il a joué un petit peu sur un peu trop près de l'eau et il est tombé donc directement dans l'eau. À ce moment-là, donc il y a une jeune fille de 13 ans qui passait avec sa maman et qui l'a vu tomber, qui est descendue immédiatement et qui a été le chercher dans l'eau pour lui sauver la vie. Il a 80 cm d'eau à peu près à cet endroit-là, mais enfin c'est suffisant pour se noyer. C'était spontané mais quand même réfléchi et donc c'est rare de nos jours. Il a pu rentrer directement chez lui avec sa famille et une grosse frayeur.
Et le maire va faire voter dans les plus brefs délais une délibération en conseil municipal pour attribuer à cette jeune héroïne la médaille de la ville. Et comme c'est un ancien médecin des pompiers, il va peut-être lui suggérer de devenir pompier volontaire à 13 ans. Elle a bien prouvé qu'elle en avait déjà toutes les qualités.
Et la médaille est bien méritée. Merci Philippe de Maria. Cette fois-ci, le pire a été évité, on l'a entendu. Malheureusement, plusieurs noyades sont à déplorer ce week-end, que ce soit en Bretagne, en Normandie ou les côtes aquitaines. Près de Royan, en Charente-Maritime, une fillette de 11 ans est toujours portée disparue. Elle était en colonie de vacances et c'est lors d'une baignade que son groupe a été surpris par la marée. Faire des études revient de plus en plus cher. Cette année, pour les étudiants, le coût de la rentrée grimpe encore. Ce matin, lors d'une conférence de presse de la FAGE, principale association étudiante, eh bien, on a détaillé les principaux indicateurs qu'on a à disposition, Marie Guerrier.
Oui, la FAGE a évalué le coût de la rentrée à 2 392 € pour un étudiant de 20 ans en licence qui ne touche pas de bourse et ne vit plus chez ses parents. Une hausse de 1,32% par rapport à l'an dernier. Cela comporte les frais spécifiquement liés à la rentrée et les frais de la vie courante. Et comme le reste de la population, mais les étudiants doivent encaisser la hausse des prix alimentaires, l'habillement, l'hygiène, l'équipement informatique, les forfaits téléphone et internet, et surtout, note le président de la FAGE, Paul Maillot, il y a le loyer.
Qui augmente de 2% quasiment entre les régions et l'Île-de-France, donc pour arriver à une moyenne de 550 €.
Et chaque mois, c'est le plus gros poste de dépense pour les étudiants. Les frais d'inscription à l'université sont gelés cette année, les tarifs de complémentaire santé ont un peu baissé, les bourses sont revalorisées de 1%, mais la FAGE voit bien que les étudiants qui n'ont pas droit aux bourses et se retrouvent dans le besoin sont de plus en plus nombreux.
On a eu plus de bénéficiaires dans nos épiceries sociales et solidaires en 3 mois que depuis leur création en 2011. Donc ce qui est un constat qui est alarmant. Malheureusement, le système aujourd'hui de bourse ne permet pas de prendre en compte toutes les personnes qui sont en difficulté.
La FAGE réitère donc sa demande d'une réforme des critères d'attribution des bourses pour en faire bénéficier quelques 300 000 étudiants supplémentaires. Elle appelle aussi à la création d'une allocation de rentrée étudiante pour tous, sans condition de ressources.
Merci Marie Guerrier, notre spécialiste éducation sur RTL. Souvent, les étudiants on recherche un petit boulot, et bien cette année c'est le moment ou jamais de se tourner vers la restauration. Les patrons n'ont pas tous retrouvé leurs salariés après les périodes de confinement. Pour certains, il y a vraiment urgence à embaucher. Selon les organisations syndicales, près de 100 000 postes seraient à pourvoir dans ces établissements. Une aubaine pour les jeunes et les étudiants dont on parlait. Pas forcément pour les patrons qui ont du mal à trouver du personnel qualifié. Écoutez Pascal Mousset, il est responsable du GNI, le Groupement National des Indépendants.
On a vraiment un problème de recrutement et surtout de recrutement de collaborateurs qualifiés. Aujourd'hui, vous avez énormément de CDI dans les métiers de serveurs et chefs de rang. Et on cherche beaucoup de cuisiniers. À quelqu'un qui a une expérience en restauration, il trouve du boulot en une semaine, même pas. Vous allez en ce moment au Cap Ferret ou sur la Côte d'Azur, vous vous présentez dans un restaurant, je suis persuadé que vous trouvez un job dans les 48 heures. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne peuvent ouvrir 7 sur 7, qui ferment des espaces parce qu'ils n'ont pas les effectifs requis. C'est du chiffre d'affaires qu'on ne réalise pas. Donc dans cette situation-là, il y a des employeurs qui sont tentés d'élargir la grille de salaire par rapport à leur grille habituelle pour accueillir des nouveaux.
Des propos recueillis par Pierre Herbulot pour RTL. On passe au sport, pas question de parler de retraite pour Roger Federer, en tout cas pas pour l'instant, même si à 40 ans, la légende suisse du tennis doit s'éloigner des courts pendant plusieurs mois. C'est lui-même qui l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. Il va devoir à nouveau se faire opérer du genou. On fait une pause et dans un instant, vous aurez la parole au 3210. Si vous voulez réagir, que ce soit sur l'Afghanistan, le coût de la rentrée scolaire ou même les anniversaires de Pierre Richard et Sheila, appelez-nous 3210, la parole est à vous.
RTL Midi, le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
À midi 52, ces découvertes médicales qui ont changé nos vies. Chaque lundi cet été, on s'arrête avec le service santé et les archives de RTL sur les grandes découvertes médicales qui ont changé nos vies. Aujourd'hui, on va revenir sur nos progrès en matière de prothèses. Quand on parle de prothèses, on pense à celles de la hanche et du genou, les plus courantes. Chaque année en France, nos médecins en placent entre 12 000 et 15 000 sur des patients. Mais avec vous, Agathe Landé, on va aussi revenir sur les progrès incroyables que la médecine a fait ces dernières années sur les prothèses pour les personnes amputées. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, un athlète inattendu a attiré les feux des projecteurs.
On va évoquer ce sprinter pas comme les autres. Il s'appelle Oscar Pistorius.
Pistorius est né sans péroné et a été amputé au-dessous des deux genoux à l'âge de 11 mois.
Avec ses prothèses, il court très vite même, y compris
un athlète avec deux prothèses à la place des jambes et qui court le 400 mètres aux côtés d'adversaires, tous valides. Pistorius ne passera pas les demi-finales, mais l'image a marqué les esprits et a mis en lumière les progrès de la médecine en matière de prothèses qui existent pourtant depuis la nuit des temps.
Il y a toujours eu un besoin de réparation. Quand il vous manque quelque chose, vous avez envie de le réparer. Ça semble assez normal, c'est inscrit dans l'humanité.
Les plus anciennes ont été retrouvées sur des momies égyptiennes et elles ont ensuite évolué évidemment au fil des siècles, comme nous le raconte Jean Paysan. Il est professeur de médecine physique et réadaptation.
Ces progrès se sont concentrés sur des axes mécaniques, de la rigidité des structures et amélioration des matériaux, du bois, du cuir, de l'acier. L'apparition évidemment toutes les matières plastiques et des matériaux comme les silicones, tout ça. Donc voilà les grandes évolutions jusqu'aux années, on peut dire, 70 à peu près.
Et à partir des années 70, les prothèses vont connaître un nouvel essor.
Il y a eu un saut technologique qui a été l'intégration de l'électronique dans les prothèses, avec des capteurs sur les prothèses qui ont commencé à s'adapter à l'environnement. Si par exemple, vous étiez dans l'ascension d'une pente, le capteur constate que vous montez une pente et modifie son comportement de façon à vous faciliter la montée. Et puis, il y a eu un deuxième saut technologique qui a été les années 2000, l'intégration d'une forme d'intelligence, c'est-à-dire intelligence artificielle, dans les prothèses.
Grâce à l'intelligence artificielle, les journaux de ces 20 dernières années sur RTL ont été ponctués de toute une succession d'innovations médicales. Et pour beaucoup, on oscille entre la science-fiction et le miracle.
RTL Matin.
C'est un jeune homme âgé aujourd'hui de 20 ans qui est né avec une seule oreille. Désormais, il en a deux après l'implantation entre la peau et le crâne d'une prothèse auditive électromagnétique.
Yves Calvi, vous recevez ce matin Fabrice Barrès.
Équipé d'une main bibionique, c'est le terme. Je précise que vous êtes privé de votre avant-bras depuis un accident à l'âge de 4 ans. Quelles ont été vos premières sensations quand vous l'avez essayé ?
Absolument grisant. J'aurais dû avoir ça depuis 35 ans.
Après une greffe de rétine et à l'aide de lunettes innovantes, 5 non-voyants atteints de maladies génétiques ont pu recommencer à voir.
Vous devinez les silhouettes, c'est ça ?
J'ai deviné les silhouettes, c'est ça.
Une fois, je suis allée faire mes courses j'arrive à retrouver les pommes rouges, les pommes jaunes et les pommes vertes. Enfin, moi, je m'étais toujours interdit d'imaginer comment j'y verrais pour pas me donner de faux espoirs, de fausses joies, de fausses peines.
Les innovations en matière de prothèses de ces 15 dernières années sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Et on a du mal à l'imaginer, mais l'avenir nous amènera même encore plus loin. Comme par exemple des prothèses de jambes ou de bras qui seront connectées directement au cerveau.
On met des capteurs à la surface du cerveau et on détecte le signal, on reconnaît par ces stimulations quel est le geste qui doit être fait et on envoie ça dans la prothèse qui fait le geste. Ça se fait comme naturellement. Ça implique évidemment une intervention neurochirurgicale. Ce sont des travaux de recherche. On sait que ça marche. Ça sera la révolution des prothèses intuitives. Ça va être un des grands enjeux des décennies à venir.
Des travaux de recherche qui constituent un énorme espoir pour les près de 38 000 Français qui vivent aujourd'hui avec un membre amputé.
Une chronique signée Agathe Londé à réécouter sur l'appli RTL. La météo, Claire Delorme, décidément vous êtes abonnée à la grisaille.
Alors j'ai voulu résilier mais j'avais oublié qu'il y avait un préavis. Alors dans le détail, en effet, on a une perturbation qui glisse actuellement sur la France, elle sera très peu active donc elle va surtout apporter beaucoup de grisaille, une couverture nuageuse assez dense hein, de la Nouvelle-Aquitaine en passant par la région centre, l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche-Comté vers les frontières du Benelux. Ça apportera aussi quelques toutes petites averses par endroit, mais rien de bien méchant, seulement quelques gouttes. Hein. Par contre, à l'arrière ou à l'avant, ça a tendance à se morceler. On aura même de très sympathiques éclaircies au fil des heures. Le soleil, en revanche, lui, résiste hein, au mauvais temps auprès de la Méditerranée, mais au prix du vent qui va souffler très fort, un mistral tramontane entre 60 et 90 km/h. Donc soyez prudents. Et puis du vent, on va aussi en avoir à l'intérieur des terres. Et donc c'est lui qui est responsable d'ailleurs de ce rafraîchissement, de cette baisse spectaculaire du mercure. On perd quand même 8 degrés, entre 6 à 8 degrés en moyenne, c'est pas rien. Par exemple, on a 23 degrés actuellement à Paris, 24 degrés à Grenoble, encore à Strasbourg, 25 degrés à Bordeaux. Par contre, le sud-est, lui, conserve encore des températures caniculaires, même si là aussi ça baisse. La maximale, ça sera 32 degrés, que ce soit pour Nîmes, Marseille, Toulon, encore Montpellier. Et donc cette vigilance canicule, elle devrait s'arrêter dans le courant de la nuit maximum demain.
Et demain, Claire, on prend les mêmes et on recommence?
Oh bah absolument. Je vous ai dit, un préavis. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin, mais en tout cas, les nuages seront encore de la partie, que ce soit pour un bon tiers nord du pays, en direction du sud-ouest, en tout cas pour la matinée. Et puis au fil des heures, on va quand même avoir aussi de belles éclaircies, mais qui auront tendance à se développer davantage dans le sud, plutôt qu'au nord, avec des températures qui continueront légèrement de baisser.
Merci Claire, vous êtes très très nombreux à vouloir réagir à l'actualité, à avoir composé le 32-10. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite.